Donc là, on est toujours dans la même classe, donc moyenne grande section. On est sur l'espace de construction, mais qui du coup n'est plus en lien avec les jardins en carré, qui est avec un jeu de construction qui s'appelle Petit Ingénieur. Donc c'est aussi l'alternance des temps, comme on l'a vu, au sein d'un même espace, entre activité autonome et activité encadrée. Donc vous l'avez présenté, donc l'espace est un espace modulable, où on trouve des jeux dans des étagères. Les tables qui sont là peuvent servir à tout autre chose à certains moments, mais quand l'espace se met en place, les tables sont mises en U pour que les élèves aient directement accès à tout ce qui est dans tous les jeux qui sont dans les étagères. Et là, pour la première fois, après avoir exploré assez longuement le matériel, ils sont confrontés à une fiche technique qui est donc affichée dans l'espace. Donc je vous présente ce jeu. Donc c'est un jeu du commerce là, hein, où on a différentes pièces, des engrenages, des roues, des barrettes, des petits outils en plastique, et puis des vis, des écrous, des barrettes, non des, je sais plus comment ils appelaient ça, des tiges et des clous. Des axes. Voilà. Merci. Des scientifiques. Alors, attends. Donc, un nouveau petit tableau pour vous faire comprendre comment ça se construit. Donc, on est aussi sur une séquence qui alterne des lieux d'action, qui sont l'espace construction, et puis des lieux où on définit l'action et on revient sur l'action, qui est l'espace regroupement. Donc, espace construction avec des temps en activité libre et des temps en activité contrainte. Et puis, du coup, l'espace regroupement, temps passation de consigne, temps de retour sur l'action. Et puis, un dernier temps, puisqu'à chaque fois, elle met quand même à chaque fois en place un temps de dictée à l'adulte aussi pour travailler sur le passage à l'écrit. Donc, premier temps long, comme on l'a dit à chaque fois, pour explorer et jouer. Qui permet de vraiment découvrir le matériel et de se donner le lexique, puisque là, du coup, il n'y avait pas de lexique. Donc, ils ont dit la barrette à 3 trous, la barrette à 5 trous, les vis, les clous. Enfin, ils se sont donné le lexique. Et puis, à partir de là, elle donne la consigne. Alors, une consigne qui est assez simple. Hein. Aujourd'hui, dans l'atelier, vous allez essayer de construire la voiture de course avec la fiche technique. On regarde la fiche technique ensemble quand même un peu. Et donc ils partent dans l'espace construction. Là ils sont en autonomie mais avec la fiche technique et ils ont à construire la voiture. Contrairement à ce qu'elle avait prévu, ils ne se servent pas tous de la fiche technique et ça dérive assez vite. C'est-à-dire qu'il y a un élève qui construit à partir de la fiche la voiture et puis d'autres qui se lancent dans d'autres activités, d'autres projets. Ah oui. Donc ça, y en a qui partent complètement sur d'autres projets, des bateaux, des châteaux, il y en a qui restent dans l'activité, mais comme vous le disait Marie-Line hier, qui font des voitures avec des roues fleurs. Donc contrairement à ce qu'elle avait prévu, elle avait prévu un retour au grand groupe pour expliquer comment ils avaient fait. Elle reprend le groupe et elle revient sur la tâche qui était à mener. C'est toujours la même classe, hein, c'est moyen-grand. Et donc elle revient à partir de la réalisation du seul élève qui est resté dans la consigne sur qu'est-ce qu'on a à faire et quel est le lien avec la fiche technique. Et ils repartent dans l'espace avec la consigne de bah, cette fois on y retourne et on essaye. Et on fait la voiture de course. Et s'installe un tutorat qu'elle, vous verrez dans la vidéo, hein, qu'elle guide un peu entre l'élève qui a réussi à faire sa voiture et les autres.
Et puis, il y aura un autre temps de retour sur l'action pour formuler et puis passer à l'écrit. Et puis ensuite, bien sûr, retour aux activités libres. Donc voilà un petit peu comment ça se construit. Donc la séance, je vous l'ai dit, il y a eu un temps d'appropriation assez long. Et on construit une voiture de course à partir de la fiche technique. Donc voilà la fiche technique. Donc quelque chose de très simple, c'est la première fiche technique, le matériel et quelques étapes. Là, je vous l'ai dit, à partir du schéma, donc consigne, activité en autonomie, régulation, retour sur l'action et nouvelle mise en situation. Et voilà ce qu'ils avaient à construire. Non, là l'idée c'est que dans la consigne, ils ont regardé ensemble. Mais l'idée c'était de voir comment ils allaient s'approprier aussi cet outil-là et qu'est-ce qu'ils en faisaient et qu'est-ce qui leur servait, qu'est-ce qui leur servait pas. C'était un petit peu... Après, il y a eu tout un travail à partir de ça, de construction de fiches techniques. Elle a d'abord voulu voir comment ils réagissaient à cet écrit-là. Après, quand on est revenu sur une analyse, une réflexion plus pointue sur la tâche et sur ce que ça demandait de lire une fiche technique, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même vraiment une complexité réelle et qu'ils en étaient restés à l'étape matérielle, qui se servait du matériel et qui ne passait pas par les étapes. Ce qui leur sert, c'est le matériel et éventuellement la photo pour avoir une représentation de ce qu'ils ont à faire. Mais ils ne passent pas par les étapes. Mais elle n'avait pas voulu tout. Ils ont regardé, mais elle a laissé, enfin, on pourrait regarder le moment, mais c'est pas celui qu'on a choisi, mais on aurait pu regarder le moment de passation de la consigne où il parle du matériel, il parle de ce qu'il y a à faire, mais elle guide pas. Elle guide pas elle les laisse s'approprier et voir comment ils s'en servent. Voilà. C'était un choix qui peut être discuté. Oui.
On va vous passer la vidéo et en même temps que la vidéo, donc la séance, le synopsis réduit de la séance de construction pour que vous puissiez situer où se passe l'extrait. Et puis, le transcript qui correspond à l'extrait de vidéo que l'on va vous passer, parce que là, cette fois-ci, effectivement, c'est pas toujours bien, bien audible, hein, parce que c'est quand même en situation de classe.
Je pense que c'est important.
Et le transcript, il n'est pas...
Relativiser le transcript parce que je l'ai fait à partir de la bande audio puisque, en plus de la caméra, j'avais mis un petit dictaphone. Donc, je l'ai fait à partir de la bande audio et je ne l'ai pas repris à partir de la vidéo. Donc, il est assez pauvre. C'est vraiment... sur la vidéo, vous verrez plus de choses, mais là, il sert plus à guider... Oui, on va peut-être vous donner. Donc, on va vous donner une consigne. Ouais. Donc, on a choisi le moment où elle a repris avec eux à partir de la réalisation d'Alexandre qui lui a réussi et de la fiche technique. Elle a invalidé toutes les constructions qu'ils avaient pu faire par rapport à cette consigne-là. Ils sont revenus sur comment on fait une voiture de course. Et là, il y a eu quand même un temps beaucoup plus long sur la fiche technique, mais plus sur l'idée de matériel, parce que c'est ce qu'a mis en avant l'élève qui avait réussi. Et elle les renvoie dans l'espace pour leur dire, cette fois-ci, on y va, mais vous faites une voiture de course. Je veux pas autre chose qu'une voiture de course. Et la consigne, c'était d'essayer de regarder un petit peu ce qui pouvait être intéressant au niveau... Tu veux donner la consigne précise au niveau du langage et des savoirs de découverte du monde et de ce qui se passait entre eux, quoi, interaction, langage, apprentissage. Donc par rapport au synopsis que je vous ai donné, alors attends, mais je ne l'ai pas là moi, mais voilà. Par rapport au synopsis, on commence On a transcrit à partir de 153, mais dans la phase qui s'appelle 143, reformulation de la tâche attendue et d'évolution. Donc on est sur la phase 3, la fin de la phase 3. Et on va vous laisser jusqu'à la fin. Mais ça ne dure pas très longtemps, une dizaine de minutes, je crois. Donc on va peut-être essayer d'échanger en commun par rapport à cette vidéo et ce que vous avez pu noter qui vous a paru intéressant en lien, oui, bien sûr, avec les apprentissages, découvertes du monde et langagier.
Moi, je reviens sur la question de la fiche. Et en fait, ils n'utilisent pas la fiche. On est plus dans une démarche où on essaye de réaliser un objet à partir d'un modèle qui est le modèle de construction du premier élève plutôt que construire à partir d'une fiche. Et du coup, ça renvoie un peu aux apprentissages qui sont en jeu. Est-ce que on est plus sur des apprentissages de lecture, dans le cas il faudrait peut-être plus mettre en place des choses sur la lecture de la fiche, ou bien est-ce que on essaye de faire à partir d'un modèle? C'est deux approches différentes.
Il y a, par rapport à ce problème là, il y a des réactions?
Moi, je me dis que le problème qu'il y a peut-être, c'est qu'il n'y a qu'une seule fiche technique pour tous les enfants. Que s'ils avaient eu chacun leur fiche technique devant eux, ils auraient peut-être plus pensé à regarder la fiche. Parce que là, elle était en fait en plein milieu de l'atelier et il y avait quelque part que l'enfant qui était en face qui pouvait en profiter. Les autres lui tournaient le dos à la fiche.
Cette fiche technique, elle était censée réaliser une voiture de course. Or, quand on a vu les objets réalisés, ça ne correspond pas à la représentation qu'ils ont d'une voiture de course. Donc, qui détourne avec le matériel qu'on leur a proposé, qui est stimulant, qui est intéressant, qui est créatif, et qu'ils utilisent leur imaginaire et qu'ils essayent effectivement de détourner le matériel, moi, je trouve ça très sain.
Donc plusieurs choses par rapport à ce que vous avez dit. Donc effectivement, ce qu'on a constaté, c'était qu'ils s'en servaient pas vraiment de cette fiche technique. Sauf que quand même, dans le temps qu'on regarde, Alexandre, donc le petit gamin qui devient tuteur parce qu'il est celui qui l'a réussi, il renvoie à l'outil quand même. Plusieurs fois, il dit oui, mais regarde, c'est là, il faut ça, et il va pointer sur la fiche. Donc lui, il a compris la pertinence. Oui, donc en fait c'était, ben oui, ça on l'avait dit, hein, donc ils avaient eu tout le temps d'exploration pour explorer. Là c'était vraiment l'idée d'introduire la contrainte dans l'espace. Par rapport au choix, alors ça a été une discussion dans la construction de la séance, Armel s'était posé la question du nombre de fiches techniques. En fait l'idée d'en mettre qu'une, c'était parce qu'elle voulait qu'il y ait coopération, qu'il y ait des interactions, qu'il y ait coopération. Et voilà. Donc du coup, il y a eu peut-être trop d'obstacles à la fois, parce qu'il y avait ce nouvel outil qu'on connaissait pas vraiment. Il y avait le fait qu'il manquait peut-être ce temps d'appropriation individuelle pour pouvoir se lancer dans la table. Mais ça a été un choix de n'en mettre qu'une. Donc effectivement, je rejoins la première intervention, c'était un choix dans les apprentissages. Est-ce qu'elle voulait, c'est qu'il soit vraiment sur une... C'était pas tant un travail de lecture individuelle de la fiche technique, c'était plutôt comment on allait s'approprier un outil pour faire quelque chose ensemble avec.
Merci. Oui, ce qui me semble important, moi, c'est peut-être qu'ils lisent la fiche, qu'ils la lisent pas. Pour moi, c'est pas le plus important. Je ne pense pas qu'il faille mettre une fiche par enfant non plus. C'était pas ça le but. Le plus important pour moi, c'est ce qui s'est passé dans l'espace conçu à cet effet. Et est-ce qu'il a rempli pleinement son objectif, cet espace? Bah oui, parce que c'était de construire un objet commun, le même, et surtout en permettant aux enfants de le faire ensemble et d'avoir des échanges entre eux et de réinvestir le vocabulaire qui avait été finalement appris avant, la vis qui était le clou plutôt qui n'était pas encore et donc pour moi c'est le but principal de cet espace là c'était ça. C'était pas d'en faire un espace de lecture d'une fiche. C'était un travail en collaboration avec des interactions langagières qui me semblent les plus importantes. Voilà.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec la collègue sur ce point de vue-là, en admettant que le but, il a été atteint. Mais que les objectifs d'apprentissage, ils n'ont pas été atteints et il ne me semble pas que ce soit très, très grave dans la mesure où on a parlé de temps hier et que dans un module d'apprentissage pour atteindre les objectifs visés, il va falloir du temps et que ce ne sera pas sur une séance qu'on pourra évaluer si les objectifs sont atteints. Bien au contraire, ça me paraît être plutôt une espèce de séance situation de référence, je ne sais pas si, qui va permettre justement de lister un certain nombre de difficultés pour atteindre les objectifs.
Juste un petit commentaire. Effectivement, ce qui peut remarquer aussi, c'est la validation. C'est-à-dire qu'ils ont intégré la validation, une voiture, ça roule. Ça, je trouve que c'est extrêmement important par rapport à la découverte des objets. C'est-à-dire que du coup, ils sont passés d'une voiture qui était plus par rapport à l'imaginaire, etc., vous voyez, même par rapport à un avion qui était une représentation d'avion, mais qui n'était pas du tout un avion parce qu'il n'avait pas volé. Pour ça, je reviens par rapport à ça. C'est-à-dire que du coup, c'est justement, si on est dans la découverte des objets, c'est par rapport à la fonction des objets. Donc effectivement, ça ressemblait peut-être à des avions, mais ça n'avait absolument rien d'un avion, à part que ça avait une forme d'avion. Ici, on a une grande différence, c'est qu'on a une fonctionnalité. Ça roule et ils l'ont intégré, puisqu'en fait, tous, après, vont... De même, ils disent, est-ce que ça roule ? C'est-à-dire qu'ils ont intégré l'idée d'essayer de valider une fonctionnalité. Enfin, ça me semble important à repérer d'un point de vue apprentissage.
Et c'est vrai que du coup, ça re-questionne la fiche technique, puisqu'ils ne sont pas du tout dans « ça ressemble à ce qu'est sur la fiche », mais sur l'objet lui-même, quoi. Donc... par rapport à ce que disait la collègue avant, c'est vrai que c'était le début d'un travail sur fiche technique, c'est ce qu'on a dit, hein, c'était vraiment le premier positionnement qui a permis de réanalyser, même pour nous, ce que c'était qu'une fiche technique et les difficultés que ça posait dans tous les codages que ça impliquait, hein, les codages de matériel, les positionnements des étapes, repérer qu'un encadré c'est une étape, il y a quand même plein d'obstacles. Sur lesquels ils ont été obligés d'être confrontés. Et du coup, oui, et du coup, le travail qui a été fait, c'était plutôt de se mettre en situation, d'en construire pour... alors, Marie-Line et puis...
Mais sinon, je partage tout à fait que appeler ça une voiture de course, c'est quand même... appeler ça une voiture, enfin, ou un véhicule, hein, un véhicule à quatre roues, mais c'est vrai qu'appeler ça une voiture de course, du coup, ça, peut-être qu'avec les enfants, on pourrait discuter, est-ce que c'est vraiment une voiture de course, voyez, parce que je suis entièrement d'accord avec vous que c'est pas... C'est par rapport, du coup, à les fonctionnalités, vitesse, etc.
On est bien sûr.
Ce qui m'aurait beaucoup intéressé, ça aurait été de voir la phase suivante dans l'espace de regroupement, voire l'espace écrit. Parce que plus la réflexion avance, plus je me dis que l'apprentissage se joue quelque part dans les différents espaces, mais entre les différents espaces. Et à vrai dire, j'ai un peu oublié la fiche technique dans mes observations. Et j'ai été absolument passionnée par ce qui se passe dans ce temps d'exploration qui est aussi dans l'espace exploration, passionnée par le lexique qui sort, les noms, vis, barrette, hein, les verbes, dévisser, visser, mais aussi des expressions qui caractérisent les moments de la démarche. Alors je les ai entourées, il y en a plein, hein, sur la fiche de transcript. Des mots comme « j'ai une idée »,« demande »,« je me demande »,« je sais pas »,« on sait pas »,« non, non, non ». Il y a donc, dans la fiche écrite qu'on a sous les yeux, pour peu qu'on code en marge, avec un point d'interrogation chaque fois que des questions se posent, pour peu qu'on corde avec des petites flèches qui s'affrontent, les moments où il y a des désaccords fondamentaux avec beaucoup de non, 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 non. Et puis on arrive vers la fin du transcript et on trouve des formules. Je sais, ça marche, ça réussit, on a réussi, j'ai réussi. Et je trouve que ce qui serait passionnant, ce serait de voir comment la maîtresse s'empare de ces richesses qui ont émergé, je dirais, dans des états un peu balbutiants, un peu en germe, comment elle s'empare de cette richesse-là dans les temps de regroupement et les espaces de regroupement et d'écrit pour structurer le lexique, mais aussi comment le langage élaboré va pouvoir se mettre en place dans des textes plus, plus riches, mieux faits. Donc distance par rapport à l'action, mais aussi, ce serait un point qui me passionnerait, si j'ai bien compris, avec des moyens grands, ça doit être possible, comment on peut faire rendre visible pour ces élèves-là les moments de la démarche. Quand vous dites, vous n'êtes pas d'accord, vous disputez, hein, c'est une phase où effectivement, ben, dans toute démarche d'investigation, il y a des phases comme ça où on n'est pas d'accord, et qui a été précédée par une phase où on se posait beaucoup de questions. Et qui finit, hein, la séance s'arrête au moment où on est quasiment tous d'accord. Et la démarche d'investigation, quand elle aboutit, bah, ça aboutit à une phase où au moins partiellement on tombe d'accord. Donc j'ai trouvé que ce moment était absolument passionnant, mais qu'il sera notoirement inutile si toute cette richesse n'est pas reprise pour être structurée.
Et du coup, on revient bien sur cette idée que ces temps d'exploration ou de travail en autonomie, ils ont besoin d'être observés. C'est-à-dire que du coup, on doit quand même avoir un regard, enfin, dans la posture enseignante, on est obligé d'avoir un regard sur ces temps-là pour que dans les temps de retour sur l'action, on sache où pointer et que remettre. Donc le temps, il n'y a pas eu de temps là, de retour parce que du coup la séance n'avait pas été construite comme elle, puisqu'elle les a repris pour réenvoyer sur une deuxième essai, donc elle n'a pas fait de temps de retour après ce temps-là. Mais elle les a repris l'après-midi sur une production de texte et la production de texte n'a pas été, enfin, a été vraiment quelque chose de constructif et de construit en commun. C'est-à-dire que là, on voyait bien que tout le monde, même si on voit bien que Johanna, elle n'a pas encore toutes les billes pour faire ça toute seule, mais elle avait quand même, elle avait réussi à dire, et ce que dit, ce que m'a dit Armelle après, donc dans l'entretien, c'est qu'elle est retournée plusieurs fois dans l'espace à l'accueil et qu'elle a réussi à faire sa voiture dans la semaine qui suivait, quoi. Donc elle s'est vraiment donnée comme défi d'y arriver toute seule et de se servir de ce qu'ils avaient appris. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi dans leurs interactions. On voit bien qu'il y a coopération, mais que la coopération, c'est pas facile. Et souvent, on pense qu'ils font à la place des autres, hein, que c'est pas si évident. Là, on voit bien qu'il y a à la fois, ils font quand même un peu pour l'autre, mais il y a quand même, surtout dans le dernier temps où ils sont tous les trois, on voit bien qu'ils ont chacun leur place et qu'il y a langage et action, mais qu'ils arrivent chacun à avoir des tâches. Ils ont un espace partagé quand même pour réaliser ensemble quelque chose. Et on voit bien effectivement que ça se construit, quoi, là. Que chacun est attentif à ce que fait l'autre pour apporter ce que lui sait de l'objet.
C'était pour rebondir aussi sur les remarques. Et puis finalement, ça me faisait penser un petit peu à certains travaux en philosophie analytique, un petit peu. Enfin, ça me faisait penser à Wittgenstein un petit peu. Par exemple, non pas simplement des éléments de vocabulaire qui peuvent émerger, enfin un lexique qui arrive, mais ce qui est intéressant, et puis ça a été assez clairement relevé, c'est que il n'y a pas simplement du vocabulaire ou des mots qui arrivent, mais avec des modalités de contextualisation justement liées à l'organisation de l'espace, je pense qu'il y a de vraies propositions qui arrivent, c'est-à-dire des vrais points de vue qui à un moment donné s'expriment. Et c'est peut-être là, à un moment donné, que des correspondances entre l'oral, l'écrit, des choses à reprendre ultérieurement, enfin, à réinterroger, re-questionner, enfin, me semble véritablement se jouer. C'est-à-dire ces moments où, justement, de ce chantier à la fois un petit peu enfin, concret et matériel, puis, enfin, c'est une image, mais chantier linguistique aussi, enfin, de mots, d'éléments qui arrivent, Ceci dit, il y a des éléments très construits, très structurés, sans trop exagérer la chose, mais il y a quelques petits schèmes conceptuels, méthodologiques, qui me semblent bien en place, assez rigoureux même. Et ça, ça mérite d'être repris. Et pour finir, c'est, me semble-t-il aussi, vraiment très nettement articulé, très nettement lié à l'organisation spatiale. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai trouvé intéressant, alors, qu'il y ait effectivement à un moment donné la possibilité de se retrouver face au mur avec des éléments, appelons ça comme ça, des objets, et puis se retourner pour être sur une sorte de, sur la table commune, dont il joue un peu quand même. Il y a ce double mouvement qui s'opère, me semble-t-il. Voilà. Mais au plan de la langue, je crois que ça serait peut-être un des chemins vers cette notion de proposition qui arrive, qui émerge un peu de ce travail qu'ils font. Et me semble-t-il que l'enseignant peut fixer, relayer, voilà.
Toujours dans cette idée d'espace et de spatialiser des choses, de rendre lisibles des choses grâce à l'espace, de rendre visibles des choses grâce à l'espace. Alors quand je dis choses, c'est... Voilà, je ne sais encore pas de ce que ce serait. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait un endroit, un espace, un mur, sur lequel il y aurait possibilité de rendre visible et lisible ce que vous disiez, tout ce lexique qui est né? Est-ce qu'il y aurait un espace qui permettrait de rendre visible ou lisible sous forme d'affiches les étapes de la démarche avec les mots qu'on sait échanger et puis des codages qui permettent aux élèves de commencer à comprendre que quand on fait des sciences il y a des phases effectivement auxquelles on échappe guère? Et est-ce que c'est une troisième idée de spatialisation, est-ce qu'il y aurait à créer ou quelque part à aménager un ou des espaces pour rendre visible ou lisible les traces de ce qu'on est en train de construire en tant que savoir? Je pense par exemple à des photos, des légendes, et ça serait un album, ce serait peut-être quelque chose qui se feuillette, où il y aurait une chronologie, où il y aurait un rendu spatialisé du temps qui passe et des acquisitions qui se font. Je ne sais pas si je suis claire.
Vous nous offrez une transition de rêve. Parce que du coup, là, l'idée, c'était de passer justement à partir d'un projet escargot, en classe de petite section, sur la question des traces, justement. Les traces écrites et comment on les organise.
Donc effectivement, pour revenir à ce que tu disais, Evelyne, quand on a montré le diaporama sur les espaces, quelque chose pour nous était important. Effectivement, ce sont tous ces affichages qui font partie intégrante de l'organisation des espaces et qui donnent à voir justement des choses qui ont été construites, observées, etc. Donc là, le travail que je vous présente a été réalisé par Marie-Paul Pirot. Donc, c'est la même collègue que celle qui a fait le travail sur l'eau, en petite section, tout petite section. Donc, Marie, dans l'histoire de notre groupe de recherche, c'est vrai qu'elle ne faisait pas de découverte du monde. Et elle s'est lancée tête baissée dans ce type d'activité. En particulier, là, c'est la première fois qu'elle faisait un élevage d'escargots dans sa classe. Voilà. Donc, un élevage d'escargots en toute petite section et en petite section. Donc, l'observation quotidienne des escargots pour construire des savoirs sur le vivant. Donc, effectivement, c'est une situation qu'elle avait anticipée. Elle avait donc récupéré des escargots l'hiver, donc des escargots qui sont enfermés dans leur coquille. Elle l'a mise en place, c'est elle qui l'a installée dans sa classe en février. Donc elle a installé ce qu'elle a appelé avec les élèves une escargotière, c'est-à-dire un coin autour du vivant dans la classe pour découvrir le vivant. C'est un projet qui est inscrit dans le temps, donc ça va durer du mois de février jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au début du mois de juillet, avec des objectifs qu'elle s'était fixés. Au départ, elle s'était fixé un certain nombre d'objectifs. Après, c'est dans sa manière de rebondir sur les événements qu'elle a construit tout ça. Donc, en particulier, reconnaître les manifestations de la vie animale, la croissance, la nutrition, la locomotion, la reproduction. Et son projet aussi était de, bien entendu, d'avoir l'élevage dans la classe pour aller ensuite bien être les escargots, sa vie dans la nature, hein, en milieu naturel. Je suis pas passé en diaporama, excusez-moi. Bien, voilà. Donc, voilà le matériel, hein, dans la classe, un vivarium, de la terre, un pot-abri, deux pots maternité, donc des pots de fleurs que vous voyez retournés là, dans le vivarium, qui sont les pots-abri, et puis le pot maternité, donc c'est un pot qui contient de la terre, une éponge humide et trois escargots. Trois escargots trouvés à l'abri sous les planches dans un coin du jardin. Alors, ces trois escargots, bon, j'anticipe un petit peu par rapport au cahier que vous allez regarder. Très rapidement, s'est posé la question de savoir qui était qui. Ces trois escargots, ils se ressemblaient énormément. Donc, il a été très rapidement décidé de les marquer. Donc, il y avait un escargot qui avait un point rouge, un escargot qui avait un point vert et l'autre escargot qui n'avait pas de point. Donc, elle avait aussi dans la tête de travailler aussi sur l'espace géographique, quoi. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, elle était aussi dans l'idée d'enrichir l'expérience individuelle sur le vivant, c'est-à-dire que chaque élève soit en situation de les découvrir individuellement, d'avoir aussi cette approche qui est sensorielle avec les escargots, hein, qui est respect du vivant, découverte de l'animal, escargot, mais aussi la capacité à les prendre dans les mains, à ne pas les abîmer, à les laisser se déplacer sur les mains avec toute cette entrée qui est très sensorielle, ça chatouille, etc. Enfin, capitaliser une expérience commune qui va servir de référent commun. Alors, d'un point de vue espace, on est aussi, bien sûr, dans l'observation individuelle et on est aussi dans support de langage. Donc, à l'accueil, le vivarium est posé sur une table. Donc c'est ce que vous voyez ici, les élèves peuvent circuler autour du vivarium, c'est en libre accès, ils viennent observer les escargots, ils viennent entretenir l'escargotière, sachant que le professeur est présent et qu'il est incitateur dans le sens où il amène les élèves à observer et à utiliser un lexique commun. Donc là vous êtes sur le temps d'accueil, et puis... l'escargotière est placée dans le regroupement après l'accueil. Donc, vous voyez qu'il y a aussi toute une réflexion, on en a parlé hier, sur notamment la place des élevages. On a déjà vu, hein, lors de visites de classe avec des PE, un aquarium placé dans un coin, un petit coin caché derrière... etc. Donc là, effectivement, ce vivarium, il se déplaçait en fonction de l'importance que le maître voulait lui donner. Donc effectivement, placé dans le regroupement après l'accueil, vous voyez que déjà symboliquement, ça a une signification qui est totalement différente. Et en plus, le suivi de l'observation des escargots est possible toute la journée. Alors, le PE va orienter, si besoin, le regard des élèves vers des points particuliers, l'immobilité, les déplacements, les excréments, l'alimentation, l'accouplement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le PE, lui, il ait toujours un regard sur ce vivarium. C'est-à-dire que les événements qui s'y produisent, il va falloir les que ces événements, d'abord, ne restent pas des événements qui passent inaperçus, mais il va falloir que lui les repère, et ensuite, il va falloir qu'il les porte sur l'espace classe, ce que fait très bien Marie-Paul avec cette capacité de théâtralisation et d'émerveillement dont sont capables les professeurs de maternelle et qui est très, très importante. Donc, voilà. Et en même temps, elle a une vigilance particulière de prise de photos, photos numériques, on en a parlé hier, de la facilité avec laquelle on peut faire des photos numériques, en fonction de ce qu'elle veut faire observer et des questions qu'elle souhaite que les élèves se posent. Donc vous voyez, on est dans un guidage quand même de l'observation, des questionnements et des hypothèses. Donc voilà, vous avez effectivement... quelque chose qui nous a semblé, qui nous semble important, c'est-à-dire prendre le temps et se donner le temps pour se familiariser aux contraintes de l'élevage. L'idée, c'est cette familiarisation pratique dont parlait Marilyn hier, qui permet de construire ce répertoire d'expériences auxquelles les élèves pourront ensuite se référer et qui vont après leur permettre de s'engager dans la construction de connaissances à des niveaux plus exigeants. Donc, vous voyez, il s'agit de ce que je disais hier sur les poissons, avec des petites sections, mettre des élèves en observation devant un élevage, ça fonctionne pas bien. Alors que lorsque on s'occupe de l'élevage et qu'on se met en action avec les élèves, nourrir, entretenir. Hier, sur les poissons, on a parlé de nourrir les poissons, mais aussi de vider une partie de l'eau de l'aquarium avec les élèves, de nettoyer les vitres avec les élèves, de siphonner, c'est intéressant de siphonner le fond de l'aquarium avec un tuyau pour enlever les excréments. C'est par ce type d'action qu'on rentre sur un élevage avec des petits. Et ça permet, effectivement, d'observer. Et puis ensuite, on va être effectivement dans prendre des photos, et puis représenter et dire ce qu'on observe. Donc voilà une présentation succincte de cet élevage. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières avant qu'on vous propose, en fait, de faire connaissance avec les différents cahiers qu'on a apportés, de façon à ce qu'on puisse vous expliquer un peu quels ont été les choix de notre collègue.
Alors, un petit point quand même sur le fonctionnement. Donc, effectivement, vous voyez qu'il y a quelque chose autour de la recherche de ce que mange l'escargot. Et donc, vous avez vu aussi qu'il y a quelque chose de très très fort dans ce cahier au niveau de la structuration du temps. Alors, une petite explication. Vous avez du coloriage de couleurs par journée. Si vous avez certains ont même repéré qu'on se retrouve ce codage couleur dans les autres cahiers. Effectivement, dans cette école, à Breteil, là, projet d'école autour de la structuration de la semaine. Et chaque jour de la semaine, dans l'école, dans l'accueil, etc., a une couleur qu'on retrouve dans la classe et qu'on retrouve dans tous les codages qui sont autour des rituels de l'accueil et qu'on retrouve aussi autour des codages de tous les affichages et qu'on retrouve, que vous avez retrouvé dans ces panneaux, par exemple, autour de « Que leur donne-t-on à manger ?». Alors, par rapport à « Que leur donne-t-on à manger ?», en fait, les enfants ont un tour pour apporter à manger quelque chose aux escargots. Il y a un affichage qu'on n'a pas apporté ici, qui est une affiche. Alors, on retrouve le code couleur et on retrouve le nom de l'élève. D'accord ? Donc, tout ce que vous avez observé là, avec les différentes, les carottes, le pissenlit, il y a des feuilles de blettes, etc., ce sont des aliments qui ont été apportés par les élèves. Et alors, il y a peut-être même un événement, un jour, personne n'a apporté, l'élève a oublié. Donc, Marie dit, bon, ben, comment on va pouvoir faire ? Et il décide d'aller dans la cour chercher du pissenlit. Et le pissenlit, les escargots donc se nourrissent de ce pissenlit. Et le lendemain ou le soir, je ne me rappelle plus, il y a un escargot malade. Et l'escargot malade, en fait, il est... Il n'est pas mort, il est ouvert, il est sur le côté. Voilà.
Et donc, vous voyez que les élèves, là, sont dans une démarche de penser que l'escargot a trop mangé. Et donc, il décide de lui donner moins à manger. Et en fait, après questionnement, on s'est retrouvés quelques temps après. Puis bon, on en a discuté. On est arrivé quand même à l'idée que certainement, il y avait peut-être un peu de désherbant sur le pissenlit. Et que l'escargot n'avait certainement pas apprécié. Alors moi, je voulais quand même vous faire part d'une position que j'ai par rapport à l'expérimentation par rapport au régime alimentaire. On en a parlé dans plusieurs groupes. Moi, ma posture par rapport au vivant, c'est que la première chose, le premier truc, c'est le respect du vivant. Donc le respect du vivant, c'est-à-dire que quand on installe un animal dans la classe, on est dans un cadre qui fait qu'on doit s'occuper correctement de l'animal. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des textes là-dessus. Et ces textes, ils sont valables pour les lapins, les hamsters et aussi pour les escargots, dans une logique éducative. Et donc, pour moi, dès que les élèves sont suffisamment grands, avant d'installer les escargots, on se projette là-dedans et on fait soit une recherche, soit on demande aux spécialistes pour savoir comment installer les escargots, comment installer le lapin, etc. Et là, on a un champ de possible par rapport à l'alimentation. Et moi, je préconise l'expérimentation sur l'alimentation à l'intérieur de ce champ de possible. C'est-à-dire qu'on ne donne pas, on ne propose pas du jambon au phasme. Et en particulier, je peux vous donner un exemple quand même qui est assez parlant. Quand il y a des lapins nains, vous savez que les lapins nains sont extrêmement fragiles. Et que, en général, en dehors des boîtes de grains, de graines, on peut pas leur donner grand chose d'autre au risque de les voir attraper une diarrhée et mourir de déshydratation. Et pour moi, l'expérimentation à l'intérieur de ça, elle est, est-ce qu'ils préfèrent les grains de maïs, les grains de blé, les grains de tournesol? Derrière, vous voyez, il y a du tri, hein, il y a de l'identification, il y a des tas de choses qui sont assez productives. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Et j'ai le même discours par rapport au tétard. Tétard, c'est protéger. Donc, éducation à la citoyenneté qui, pour moi, passe en avant par rapport à l'éducation à l'observation pourtant si intéressante de la métamorphose, quoi. Donc, voilà.
Oui, par rapport à raisonnement scientifique et mise à l'épreuve de ses idées, parce que c'est bien ça, hein, sur... c'est-à-dire que, du coup, dans ce que tu dis, je voulais éventuellement ajouter deux choses. Commenter deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement, du coup, on bascule là vers justement l'expérimentation, une posture expérimentale, dans l'idée que c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va émettre des idées et on va les mettre à l'épreuve. On est bien donc du coup vers un basculement. Sinon, si on essaye n'importe quoi, on est sur une posture empirique et donc là, on bascule sur. Bien sur une posture expérimentale, on ne vient pas dire parler d'hypothèse, il n'est pas question, mais on est dans un cadre de possibilités que l'on va mettre à l'épreuve. La deuxième chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante là dans le cahier sur les escargots, toujours par rapport à cette posture, de l'idée de validation et de posture expérimentale, ce qu'on a un petit peu évoqué hier, c'est ce qui s'est passé à propos des registres d'appel. À propos des registres d'appel, à un moment donné, si vous avez remarqué, il y a une observation, les registres d'appel ont été grignotés. Donc il y a une photo, le registre d'appel qui a été mangé. Et puis, est-ce que ça peut être les escargots? Donc du coup, on est de nouveau sur une idée que l'on va mettre à l'épreuve. Et la validation, on retrouve des crottes vertes. Je reviens sur, donc du coup, l'idée de validation. Là, cette fois-ci, la validation, elle ne passe pas du tout par une expérimentation. Est-ce que si l'on remet de... Vous voyez, donc... sans doute, et moi j'avais déjà remarqué ça aussi avec des plus grands, avec des CP, quand on avait élevé des phasmes, et quand par rapport à la préférence alimentaire, que mangeaient les phasmes, plutôt que d'essayer, c'est que les enfants recherchaient quelles feuilles ils avaient pu manger. Donc ils avaient donné du troène et du lierre, et en fait, ils récupéraient les feuilles qui avaient été mangées, et ils voyaient que c'était préférentiellement le lierre qui avait été mangé, parce qu'ils retrouvaient, donc ils avaient collé les feuilles un peu grignotées, et ils reconstituaient la feuille. Tel que ça pouvait, on voyait bien que ça avait pu être une feuille de lierre. C'était du coup une recherche d'indices. Ça, j'insiste parce que c'est effectivement quelque chose d'un point de vue rapport par rapport au vivant, par rapport à la matière, où on pense toujours validation qui passe par l'expérimentation, etc., mise à l'épreuve. Et là, on passe par rapport à une mise à l'épreuve sur le vivant qui passe pas forcément par l'expérimentation, mais qui est extrêmement intéressante d'un point de vue scientifique. On met bien à l'épreuve, mais on met à l'épreuve par une recherche d'indices et non pas par une expérimentation directe.
recherche d'indices avec les crottes qui sont vertes, recherche d'indices en essayant de valider, c'est bien des feuilles de lierre qui ont été mangées. Ça, je voulais un petit peu insister parce que très souvent, d'une certaine façon, on valorise très fortement le rapport à la matière pour cette approche un peu expérimentale. Donc, en prenant du coup expérimental au sens large, ça peut passer par l'observation. Mais une observation avec une idée de mise à l'épreuve, une recherche d'indices.
Alors, quand même, par rapport à ces événements, il faut savoir que on est sur des. Le professeur rebondit sur des événements qu'elle n'avait pas prévus. L'histoire du cahier d'appel. C'est typique, mais il y a eu d'autres événements. Il y a eu l'escargot malade. Il y a eu le jour où il y a eu le petit escargot qui est apparu par miracle à l'intérieur de du vivarium. Et effectivement, c'est elle qui a donné la réponse. C'est-à-dire qu'il y avait eu introduction d'un intrus. C'était pas un petit des escargots du vivarium. Il y en a eu après, parce qu'ils ont observé la ponte et puis l'accouplement. Mais donc vous voyez la nécessité pour le professeur des écoles de toujours être lui aussi en situation d'observation de cet élevage pour devancer et permettre aux élèves d'observer. Quoi. Est-ce que vous avez autre chose à demander sur ce deuxième cahier, donc le cahier des escargots ? Si, quand même, bon, je l'ai déjà dit, mais vous voyez que les types de photographies ne sont pas du tout les mêmes que celle du cahier précédent. Hein ? On est sur des photographies des escargots, du pot, des aliments, des carottes, des différents... Je continue. Alors, celui-là, est-ce que tout le monde a compris le fonctionnement de celui-là ? Donc, c'est ça. Celui que je vous ai remonté pour que vous le rendriez, c'est celui qui m'a valu quelques découpages. Bon, vous avez sans doute compris qu'il s'agissait de travailler sur l'espace. Donc les escargots sont identifiables puisqu'ils ont un petit point de couleur. Alors c'est un travail là qui se produit le matin à l'accueil. C'est pour ça que vous avez une liste de noms à la fin. Les enfants partent tout seuls ou par deux ou trois. Donc remplissent la fiche qui consiste en fait à positionner correctement les escargots dans l'espace du vivarium. Alors vous remarquerez qu'il y a une autre subtilité, il n'y a pas simplement l'endroit où il se trouve. Vous avez vu aussi qu'il y a autre chose qui envoie sur l'observation, vous avez repéré. Vous avez vu qu'il y a plusieurs... Les enfants disposent de vignettes différentes. Des vignettes avec des escargots qui sont rentrés dans leur coquille, des escargots qui sont à moitié sortis de leur coquille et des escargots qui sont complètement sortis de leur coquille. Donc vous voyez que pour faire cette trace là, ça nécessite à la fois l'observation de voir comment est l'escargot, est-ce qu'il est rentré dans sa coquille, est-ce qu'il est un petit peu sorti de sa coquille, est-ce qu'il est complètement sorti de sa coquille, et vous avez aussi tout le travail sur l'espace, donc avec tout le langage hein, qu'il y a derrière. Qui là travaille à l'oral, où est-ce qu'on le met, est-ce qu'il est dans le pot, est-ce qu'il est à côté du pot, est-ce qu'il est derrière le pot, est-ce qu'il est en haut, en bas, etc. Donc là, vous avez une entrée qui vous permet d'être sur le travail autour de l'espace. Le résultat final, c'est effectivement un cahier qui rassemble et relie les productions de tous les élèves. Donc voilà.
Par rapport à ce qu'on disait hier, par rapport à l'observation, donc tu disais effectivement, pour inciter à l'observation, faire des soins, l'enseignant qui... Mais là, c'est peut-être une autre façon de susciter un renouvellement d'observation. C'est-à-dire que du coup, une façon d'avoir un projet, et parce que sinon, les escargots eux-mêmes, pourquoi aller les voir Tandis que là, du coup, s'approprier un projet de repérage, où ils sont, sous quelle forme, etc., ça peut être une façon d'inciter les élèves à comprendre le sens de l'observation. On n'observe pas pour observer, on a un projet commun de...
Bah, c'est laisser une trace de cette observation avec quand même quelque chose qui est du passage du 3D au 2D. Non, ça ne l'aurait pas dit, mais on voit bien que... Vous voyez bien que quand Marie nous dit « j'ai commencé avec ça » et puis « j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas », on voit bien que la difficulté, elle est réelle. Elle est donc passée sur quelque chose qui est de la photographie. Mais la photographie reste quand même en 2D. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un endroit où l'escargot, il est collé sur l'envers du pot, je sais plus, j'ai collé ça un certain nombre de fois. Donc en fait, c'est quand même pas très, c'est un petit peu complexe. Hein.
Pour évoquer ça, je sais pas, peut-être puisqu'on est aussi sur la maternelle, enfin, un projet un petit peu de communication, enfin le montrer à d'autres ou faire partager ces expériences-là avec la classe à côté ou avec voilà. Et je me disais que par rapport à ce choix éventuel, enfin, de communiquer le résultat de nos observations, ça permettait éventuellement de comment dire, de distinguer, de séparer un petit peu ce qui pouvait être d'une sorte de langage privé, c'est-à-dire tous les procédés de code et de codification dont nous avons eu besoin à l'intérieur de la classe pour faire nos observations et nos différentes remarques, et puis se rendre compte finalement de la compréhension de ce que d'autres dans la classe à côté ou enfin, pourrait avoir de nos observations, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment une sorte de langage privé lié à nos observations justement spécifiques nous concernant nous avec toutes les conventions même de langue que nous avons pu utiliser, et est-ce que ceci est transmissible, est-ce que avec nos mots, avec notre manière d'avoir décrit, observé les choses, est-ce que nous sommes compréhensibles, et souvent ils ne le sont pas. Mais c'est ça qui est intéressant.
Donc, le dernier cahier, il a été réalisé assez tard dans l'année, celui-là. Marie souhaitait que chaque élève ait un cahier sur les escargots. Donc, vous voyez, vous avez une date, hein, 3 mai 2007. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui a été pas du tout enclenché dès le début du projet, mais qui a pris forme... entre le mois de mai et le mois de juin. Donc, et vous voyez aussi que il y a des choses là qui n'ont pas été faites qu'elle avait prévu de faire. En particulier, la feuille sur les aliments n'a pas été. Nous, on avait la maquette dans le diaporama de ce qu'elle voulait faire, mais ça n'a pas été fait. Mais vous retrouvez quand même des choses un petit peu classiques au niveau de l'organisation de l'installation vivarium. Donc, comment on a installé les escargots. Vous avez des choses classiques au niveau de du schéma de l'escargot, avec toujours cette question des tentacules, là, qui n'est pas sans poser problème aux professeurs des écoles de maternelle, avec tous les bouquins où vous avez le mot corne et le mot antenne, qui effectivement se trouvent dans toute la littérature de jeunesse et même dans les documentaires. Et puis, bon, bah, vous voyez que ça a donné lieu à des collages, à des mises en ordre, qui sont là des travaux plus individuels. Et puis, vous retrouvez le code couleur, là, que certains ont repéré, là, de ce code couleur des jours de la semaine. Donc, un repérage dans le temps, toujours ce temps biologique, là, qui est toujours intéressant à travailler quand on travaille sur le vivant qui naît, grandit, etc., quoi. Donc voilà. Non, non. Bon, on avait prévu autre chose, mais on va s'arrêter là.